Bonjour Henrik.
Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde.
Henrik, je suis ravi de te recevoir sur ce 67e épisode de Comptoiria. Donc Henrik, tu es directeur pour l'initiative nationale et l'impact social sur l'intelligence artificielle chez Microsoft. Donc bienvenue, invité prestigieux, on est trop content que tu sois là.
Merci, ravi d'être avec vous et merci de m'accueillir.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais chez Microsoft, Henrik ? Et je crois que tu y es depuis quelques années en plus de ça.
Oui, j'ai fêté ma 15e année chez Microsoft le 1er décembre 2023, donc ça fait quelques temps. Et aujourd'hui, je suis directeur de l'IA au niveau national, des initiatives nationales et de l'impact positif. Autrement dit, je porte un plan stratégique qui a pour ambition de mettre en place des grandes initiatives pour accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle, mais asseoir son impact positif. Ça veut dire contribuer aux enjeux liés aux compétences, liés à l'emploi, aux enjeux de société, que ce soit la diversité, l'inclusion, les sujets environnementaux, le travail avec les associations, les startups à impact, et puis bien entendu, le sujet de l'IA responsable.
Excellent. Donc, des sujets éminemment important, surtout aujourd'hui, depuis cette accélération sur l'IA générative. Donc, un entretien qui s'annonce fascinant. Henrik, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe pour toi dans l'IA générative, et là, en particulier depuis un an et demi, grosso modo, et on reviendra ensuite après sur l'historique que tu connais.
D'accord, En fait, on vient de vivre une accélération fulgurante. C'est quoi? C'est 18, 24 derniers mois. On va dire qu'on a vécu l'équivalent de plus de 25 ans de loi de Moore, mais en 24 mois. Si on se met à la fin des années 90, début des années 2000, et on essaye de se rappeler à quoi ressemblaient les téléphones portables, hein, les Nokia et autres, les consoles de jeux de l'époque ou les ordinateurs de l'époque, et on regarde ce qu'on a maintenant. Voilà, ça, c'est 25 ans de loi de Moore. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec l'accélération des modèles d'IA, et de l'arrivée de ces modèles fondation et des LLM, on vient de le vivre en version accélérée en 24 mois. Et le chiffre qui est encore plus incroyable, ça c'est l'évolution de la technologie. Alors juste pour celles et ceux qui seraient pas familiers, la loi de Moore, c'est juste le fait que tous les deux ans, la capacité des puces double. Ce qui s'est passé, c'est tous les ans, le nombre de paramètres dans les modèles d'intelligence artificielle ont été multipliés par 10. Hein, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Et le nombre de paramètres, ça veut dire que ils sont capables de faire de plus en plus de choses, on va dire. Voilà, je vulgarise à l'extrême, mais voilà. La chose qui est aussi intéressante, c'est la démocratisation et l'accélération de cette démocratisation qui a eu lieu en parallèle. Le chiffre qui est impressionnant, c'est 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT en uniquement 2 mois.
Bien sûr. Donc, on parle d'accélération. Tu nous parles de la loi de Moore qui est déjà une exponentielle. Donc là, on a l'impression d'être une exponentielle qui s'accélère. Et en effet, comme tu le dis, ce qui est fou, c'est 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Donc, un produit qui, au final, parle au plus grand nombre et qui a été adopté hyper rapidement. Donc, on a vu ChatGPT, mais il y a Midjourney, Copilot. On parle de vraie révolution.
On parle de révolution parce qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a une évolution technologique. Mais on a une révolution dans les potentiels usages et dans l'adoption, et on va avoir une révolution dans les organisations, dans les entreprises. Moi, j'ai envie de prendre un parallèle avec la sortie de l'iPhone. Avec quand l'iPhone est arrivé, même si les smartphones existaient déjà, ce qu'on a vu, c'est un phénomène que tout le monde a appelé la consumérisation de l'IT, c'est-à-dire le consommateur qui a des usages, et notamment avec les smartphones et les apps, les fameuses apps, qu'il adopte très rapidement, et il veut retrouver la même chose dans l'entreprise. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a l'IA générative qui est arrivée très rapidement dans les mains du grand public, on va dire, et qui est en train de percuter de plein fouet, mais positivement parlant, je pense, le monde des organisations et des entreprises. Donc, oui, c'est en ça où c'est une révolution dans le sens où les entreprises étaient déjà en train d'adopter leur transformation digitale. On entendait chaque entreprise est devenue une software company, va devenir une data company, va devenir une IA company. Mais là, c'est à version accélérée potentiellement.
J'aime beaucoup ce que tu dis sur la consumérisation et la démocratisation. Donc, je pense que c'est très important. Tu as raison, on l'a vu sur le moment iPhone, parce que c'est vrai que tu vois, à l'époque de l'iPhone, tu sais, il y avait des téléphones, typiquement les téléphones Vertu, des téléphones ornés de diamants qui coûtaient une fortune, des téléphones plus ou moins puissants. Et après, on s'est retrouvés tous, en fait, grosso modo, avec un iPhone ou un smartphone qui, au final, on a le même téléphone que celui que n'importe quelle star ou n'importe quel président va avoir. Donc, on a tous le gadget technologique le plus évolué. On a accès, en fait, à cette technologie. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe aussi avec ces LLM. Avant, donc, on était plus sur la recherche, dans les labos. Et là, en fait, tout le monde peut accéder, en fait, à ces modèles. Et ça, c'est un énorme pas en avant, quoi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, on parlera peut-être un peu de l'évolution, mais l'intelligence artificielle, on l'avait déjà dans notre vie de tous les jours. Hein. Moi, j'aime bien quand on parle d'IA, dire bah, voilà, y a une accélération de l'IA parce que les trois facteurs, le cocktail qui a permis que l'IA accélère, c'est le cloud, la data et les algorithmes. Et là, on a une explosion des avancées sur les algorithmes. Donc ce cocktail là il est déjà là. On peut se dire mais c'était pas dans nos vies de tous les jours. Bah si, en fait, moi l'exemple que j'aime bien donner, c'est depuis la fin des années 90, la Poste a mis en œuvre la reconnaissance de caractère avec des réseaux neuronaux. Enfin, je sais pas si, pour être très concret, quand vous écrivez votre code postal dans des petits carrés sur une enveloppe papier, c'est parce que derrière il y a une machine qui la lit pour le triage automatique. Et ça, c'est la fin des années 90. Mais entre ça, fin des années 90, et l'explosion des cas d'usage, c'est 5-6 dernières années, et là, le boom exponentiel avec l'arrivée de l'IA générative, voilà, on est dans une autre dimension.
Mais alors justement, toi, Henrik, toi, tu es sur ce sujet depuis un certain temps, et je disais au moins, en tout cas, 2017 déjà chez Microsoft. Mmh. C'était comment l'IA en 2017? Donc, c'était des cas émergents. Est-ce que tu peux nous raconter, et est-ce que tu as vu les choses venir?
Oui, alors je vais les raconter avec en plus une histoire des coulisses. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, l'IA, c'est chez Microsoft. Hein. Juste pour la petite histoire, Microsoft, c'est une entreprise qui a plus de 45 ans, même un peu plus, et 40 ans, un peu plus de 40 ans en France. Hein. On travaille sur les sujets d'intelligence artificielle depuis plus de 30 ans avec Microsoft Research. Je crois que ça fait 32 ans que Microsoft Research existe, et dès la première année, travaillait là-dessus. Pour la petite histoire, Microsoft travaillait sur l'IA. Les premiers travaux d'IA, c'est l'IA à la messagerie. Parce que je ne sais pas si tout le monde se rappelle, mais Microsoft, c'est Hotmail. Et donc, quand on fait du mail et quand on est un système de messagerie, bah, se dire est-ce qu'il y a moyen d'automatiser la détection d'un spam ou pas, qu'est-ce qui est un spam, etc. Et ben voilà, les travaux, ils datent de là. Et en 2016, c'est là où c'est intéressant, 2016, alors en 2016, il faut savoir que les chercheurs de Microsoft battent pour la première fois le record de test de reconnaissance d'objets dans les images, le fameux test ImageNet, avec le fameux réseau ResNet, en étant à parité avec l'humain, avec le même taux d'erreur, c'est-à-dire 3,9%. Et donc ça, c'est, on se dit, bon, ok, c'est les labos de recherche qui ont gagné, qui ont réussi à battre tout ça. Ben, en fait, quasiment quelques mois après, on commence à sortir les premières API. C'est-à-dire que 2016, 2017, 2018, on voit arriver des API, donc des modèles qui étaient dans les mains de chercheurs et qui sont des modèles donc pré-entraînés, prêts à l'emploi et qu'on va mettre dans les mains de développeurs. Et donc de pouvoir avoir des scénarios d'IA de reconnaissance d'objets, reconnaissance d'images, reconnaissance de caractères, etc., sous forme apaisée. Alors, ça, c'était 2017-2018, donc extrêmement intéressant, annoncé à Build. Et pour la petite histoire, donc là, je vous raconte une histoire dans les coulisses de Microsoft. On a vu aussi, pour nous, cette accélération-là du passage du monde de la recherche à le mettre dans les mains du plus grand nombre, c'est-à-dire dans les mains de nos clients, mais également des consommateurs, avec l'arrivée de Satya Nadella. Quand Satya Nadella est arrivé, donc j'allais dire le nouveau CEO, bah non, maintenant ça fait quand même peut-être 8 ans, je crois qu'il est là, 7 ans, 8 ans. Quand il est arrivé, la première chose qu'il a déclarée, c'est qu'effectivement, Microsoft devait redevenir une boîte d'innovation, que notre secteur d'activité ne respectait que l'innovation et pas le passé. Ouais. Et une manière de faire, c'était d'accélérer cette innovation et de faire en sorte que les choses passent du monde de la recherche à des produits. Et en visitant les labos de recherche de Microsoft, il a vu qu'on avait des chercheurs qui détenaient presque des records sur la traduction simultanée. Et il leur a donné 6 mois pour mettre ces moteurs de traduction simultanée dans un outil grand public.
Et j'ai vu ça dans Skype, c'est ça, non ?
Exactement. Et en plus, Cocorico, si je peux dire, la première démo de la traduction simultanée dans Skype a été faite au Microsoft Tech Days, au Palais des Congrès. Je ne sais plus quand est-ce que tu es, je crois que c'est 2017.
Mais attends, mais ça, Henrik, j'adore. Mais donc, on parle vraiment de traduction simultanée.
Ouais.
Donc attends, on parle de Star Trek, hein, on est d'accord. Hein, c'est, je te parle en français et toi, par exemple, on va dire que tu es américain, tu m'entends en anglais de l'autre côté. Oui,
enfin, oui. Ouais.
Écoute, extraordinaire. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça aujourd'hui ?
Ben si, on l'a depuis cette année-là, je ne veux pas dire une bêtise, je crois que c'est 2018,
oui, oui, oui.
2018 on l'a à cette époque-là, quand c'est sorti, on l'a en 9 langues. Et dans Skype, ça existe déjà. Et pour information, alors maintenant, j'espère que ça va être encore plus se démocratiser avec des scénarios hyper intéressants. Vous n'avez peut-être pas suivi, mais au CES, au Mobile World Congress là, de Barcelone, donc il y a quelques semaines de ça, nos équipes opérateurs ont fait une démonstration. On peut greffer ce service de traduction simultanée directement dans le réseau de l'opérateur. Et donc aujourd'hui, imaginons que moi, je suis étranger, je ne parle pas bien français, je prends un abonnement auprès de mon opérateur de traducteur simultané, et là, on échange en temps réel avec quelqu'un qui traduit du français à ma langue et de ma langue au français pour toi, depuis une simple conversation téléphonique intégrée dans son système opérateur.
Excellent, excellent. Excellent. Donc, je pense qu'on peut espérer avoir ces fonctionnalités dans Teams aussi, un de ces quatre, quoi, en fait.
En tout cas, c'est déjà capable de le faire sous forme de transcript et autres, d'emploi, etc. Donc, en vocal, je pense que voilà.
Écoute, moi, je trouve que ce sont des cas extraordinaires, en tout cas, qui seront très importants aussi, je pense, pour sensibiliser le grand public encore plus à l'IA. Henrik, toi, l'outil d'IA que tu utilises le plus, c'est quoi ?
Moi, je jongle avec pas mal d'outils. Alors, je suis un peu biaisé parce que j'ai beaucoup joué avec ChatGPT. D'ailleurs, je l'utilise aussi encore pour certains sujets, notamment parce qu'il y a des GPTs qui sont assez intéressants. Et Copilot, j'utilise beaucoup Copilot version gratuite, grand public, à titre perso, à titre pro dans sa version entreprise avec les données, comme ça je peux utiliser les données de l'entreprise de manière fermé et sans que ça sorte. Et puis copilote dans M365, beaucoup dans Teams. Voilà, moi c'est essentiellement dans Teams mes usages. Après j'ai un usage, je vous donne un tips. Moi j'ai un usage un peu sympa. Alors je sais pas s'il faut que j'en parle.
C'est ton usage secret là que tu vas nous révéler, Henrik.
Ouais, c'est un peu mon usage secret. Je dis, c'est pas confidentiel défense, mais c'est pas, quand je suis dans les embouteillages, en fait, je peux pas.
Personne t'écoute, c'est bon. Tu peux y aller.
Je peux pas m'empêcher de soit d'avoir des idées, soit de vouloir avancer sur certains sujets. Et avoir l'application directement sur mon téléphone de copilote à laquelle je peux parler, ça c'est extrêmement intéressant. Donc aussi bien lui poser des questions en langage naturel, mais brainstormer avec lui sur le futur plan détaillé d'une initiative, d'un plan, et après lui dicter ce que je pense pour qu'il remette en forme cela, et après arriver au bureau et revoir la conversation et faire un copier-coller de tout cet échange qui m'a synthétisé pour après soit faire un mail, soit un mémo et des choses comme ça. Voilà, mon usage secret, c'est de chatter vocalement pour voilà descendre un petit peu tout ce que j'ai en tête pour après le synthétiser et pouvoir avoir un document tout prêt.
C'est génial, Henrik. J'étais en train de former des gens ce matin sur cet usage qui n'est pas encore assez connu et pour les en situation de mobilité, c'est extraordinaire. Et en plus, après, oui, c'est synchronisé ensuite avec ton desktop quand tu reviens sur ton ordi, quoi.
Exactement.
Et après, tu nous as parlé de Copilot aussi. Copilot, même en version gratuite, en fait, hein, c'est le meilleur point d'accès pour GPT-4, en fait, aussi. Hein. C'est ça qui est quand même extraordinaire.
Oui, et ce qui est surtout. Quand on voit Copilot, où on peut activer GPT-4, c'est assez intéressant, effectivement, pour lui demander… Bon, on ouvre sa page web, on utilise son Copilot, on peut faire un résumé d'un article, on peut chercher plus ou moins précis, lui demander de générer un certain nombre de choses. Moi, il y a un usage que j'ai envie de mettre en avant et qui est et que je fais pas mal en démo. Alors, je le fais en démo avec un PDF qui est une fiche de lecture de ma fille de 5e. Mais c'est pour montrer le côté un petit peu multimodal. Vous ouvrez un PDF dans Edge, vous mettez votre petit copilote à côté gratuit, et en l'occurrence là, vous imaginez, c'est un guide de fiche de lecture que la professeure d'art plastique a proposé aux enfants de 5e pour comment décrire une œuvre. Alors le but, là ce que je vais vous décrire, le but c'est pas de faire les devoirs à la place de faux enfants, mais c'est pour illustrer. Et donc cette fiche, il y a effectivement un certain nombre de catégories, le cartel de l'œuvre, l'auteur, le contexte, et après il y a un certain nombre de petits bullet points et de petites questions. Eh bien, ouvrir le PDF et poser une question en disant « Peux-tu me remplir cette fiche de lecture en allant chercher des informations à propos de la Joconde ?» On a un copilote qui va lire le PDF, qui va comprendre les diverses rubriques et qui va aller chercher des informations sur la Joconde et qui va automatiquement les mettre dans le même ordre. Ben ça, c'est intéressant comme démo, mais c'est intéressant de se dire, ben voilà, si j'ai un document de travail ou une fiche à remplir ou des choses qui sont déjà formatées, je peux aller l'interroger et me demander de le remplir différemment. Ce côté un petit peu multimodal je sais lire un document et je sais aller chercher des informations et préformater la réponse.
Ouais, non, mais ça c'est extra. Je pense que les jeunes donc vont vivre déjà dans un nouveau monde, en tout cas différent que celui que nous on a connu. Un peu un bain d'IA, quoi. Enfin, parce que si tu nous parles de ta fille par exemple en 5e, c'est extraordinaire d'utiliser ces outils, quoi.
Alors, ma fille en 5e, je suis pas en train de lui dire vas-y, fais tes devoirs avec Copilot. Par contre, ce qu'on a fait ensemble, c'est que je lui ai montré pour qu'elle sache que ça existe. Et quand elle a fait, par exemple, on avait un devoir assez imaginatif, c'était assez intéressant, elle devait inventer un dieu ou une déesse. Et donc, on a brainstormé, tu voudrais qu'il ait quoi comme pouvoir, comme ceci, ça. Et ben, utiliser après un copilote pour se donner des idées, tiens, qu'est-ce que ça pourrait être, pour vraiment titiller la créativité de l'enfant ou même de l'échange. Et bien après, l'idée, c'était qu'elle fasse une illustration, un dessin. Ben, là aussi, utiliser le générateur d'images. Après, c'est elle-même qui a dessiné, mais voilà, je trouve ce côté... titiller la créativité et puis ce côté un peu et je trouve que c'est un enfin moi je suis intimement persuadé je vous le dis que on est plus là pour amplifier notre ingéniosité que pour la remplacer quoi donc avoir un outil qui nous permette de dégrossir les choses ou de montrer un aspect de certaines choses pour après les reprendre ou partir donc complètement différemment
Ouais, écoute, ça c'est super intéressant. On va voir ces nouveaux usages, cette adoption très rapide. Henrik, j'aimerais parler d'un sujet aussi qui est un peu ton sujet du moment. C'est un mouvement très important. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du mouvement À vous lire ?
Eh bien, on est tout à fait dans la continuité de nos échanges. Donc, effectivement, on vient d'annoncer là le 12 mars un grand mouvement. Je suis ravi de pouvoir le lancer, qui s'appelle À vous l'IA et qui a pour ambition d'accélérer l'adoption de l'intelligence artificielle en France. Et quand je dis accélérer l'adoption, c'est parce que on va bien entendu parler de formation. On a l'ambition de former 100 000 individus à l'intelligence artificielle générative. C'est les individus, c'est des personnes qui sont employées, des personnes qui sont des étudiants, des personnes qui seront demain peut-être dans l'emploi et qui sont en train de se reconvertir ou qui cherchent un emploi. Mais quand je parle d'adoption, c'est l'étape d'après. Là, on vient de dire, c'est génial, tout le monde a copilote ou c'est génial, tout le monde a ChatGPT. Est-ce que tout le monde a bien compris ce que c'était que les IA génératives ? Est-ce que tout le monde a bien compris comment bien prompter déjà ? Donc ça, c'est la base, c'est le côté formation. Mais après, tout le monde, enfin en tout cas, je l'espère, est actif et a une profession, et travaille dans une organisation, dans une entreprise. Si demain, on veut que les petites, les moyennes entreprises, parce que les grands groupes avancent déjà aussi très vite, mais toutes les organisations se saisissent de l'IA générative, c'est pas tout de se dire « je sais l'utiliser » ou « je sais bien l'utiliser ». Le vrai sujet, c'est de se dire quel est mon cas d'usage aujourd'hui dans mon organisation par rapport à mon métier ou par rapport à mon domaine. Et aujourd'hui, si on prend les petites et moyennes entreprises, les startups ou les associations, j'étais notamment avec Fred Bardot, Simplon, entre autres, avec des associations. Le vrai sujet, c'est quoi mon cas d'usage ? On est passé de l'ère de l'IA, c'est pas pour moi. Parce que c'est pour les data scientists, parce que j'avais déjà ça il y a 3-4 ans, alors que c'était pas vrai, ou alors j'ai pas encore fini ma transfo digitale, comme s'il y avait une fin en soi, et donc je vais pas aller considérer l'IA, l'IA, faut pas que je passe à côté ce côté FOMO, fear of missing out. Mais en même temps, les mêmes problèmes sont toujours là. C'est quoi ma stratégie? Par où je commence? C'est quoi mes usages? Des problèmes d'organisation. En gros, est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je sais faire? Est-ce que je peux l'adopter? Et puis, le troisième élément, c'est la culture. Est-ce que mes collaborateurs sont prêts à accepter ça? Eh ben, si on veut accélérer les usages dans les organisations, ça passe par de la sensibilisation, ça passe par de la formation, mais ça passe aussi par l'étape d'après. Et c'est ce qu'on a dans À vous l'IA, c'est d'être capable d'accompagner à faire des idéatons, hackathons, atelier de réflexion, enlevons les mots en ton, mais en gros c'est atelier de découverte et de réflexion de quels sont mes cas d'usage dans mon domaine, dans mon métier, etc. Et donc ça c'est ce qu'on veut faire avec aussi À vous l'IA, avec tout l'écosystème de Microsoft. Et puis après de se dire voilà, on a accompagné des individus, on a accompagné des organisations, il y a pas mal de cas d'usage, il faut peut-être en faire profiter la communauté. Donc faire un recueil de ces cas d'usage et de ces bonnes pratiques pour après le repartager à d'autres et créer un peu une spirale vertueuse. C'est toute l'ambition qu'on a avec À vous l'IA et tout l'écosystème et le mouvement qu'on essaye de lancer au niveau national.
Ah bah écoute, c'est génial. Je pense qu'on en a énormément besoin parce que ce qu'on dit, c'est qu'en effet, il y a une accélération incroyable sur l'IA. On parlait des 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT en 2 mois. Le danger, en fait, c'est que l'adoption ne suive pas parce que ça va très, très vite et qu'on est sur de l'exponentiel. Donc, je pense qu'il faut tout mettre en œuvre. Et tu as raison là-dessus, c'est un système complet, un écosystème. Et oui, je trouve ça super ce que tu dis. Moi, je parle aussi, c'est des démos, des workshops, des hackathons, des meet-ups. C'est pouvoir, en fait, être à tous les niveaux, en effet, pour faciliter l'adoption.
Ouais, et c'est surtout quelle valeur ça apporte au métier. Si je reprends mon exemple d'iPhone, ouais. Quand l'iPhone est sorti, toutes les entreprises disent « il nous faut une app ». D'accord. Là, tout le monde est en train de se dire « il nous faut du Gen AI, il nous faut un GPT-là, etc. » Le vrai sujet, ce n'est pas de se dire « il faut qu'on adopte cette techno par la techno ». Le vrai sujet, c'est de se dire « quelle valeur je veux en tirer dans mon métier ». Est-ce que c'est parce que je veux améliorer l'expérience pour mes employés? Leur donner des outils pour être plus productifs, pour faciliter leur vie de tous les jours et leur travail. Est-ce que c'est parce que je veux améliorer l'expérience de mes usagers, de mes clients, leur offrir de meilleurs services? Est-ce que j'ai besoin de transformer mes processus ou inventer des nouveaux services et des nouveaux business models? C'est ça le vrai sujet. C'est de commencer par la valeur et dit autrement par le caillou dans la chaussure qu'on a peut-être et qu'on voudrait enlever et après se dire comment l'IA générative peut m'aider. Et donc, avoir cette démarche par effectivement cette réflexion et au travers des cas d'usage, c'est clairement ça l'enjeu. Justement, d'accompagner ce phénomène un peu d'adoption qui est encore plus poussé par la consumérisation.
Ouais, non. Écoute, ça, c'est top. Moi, ce que j'adore aussi dans ce mouvement Avolia, c'est aussi l'ambition que vous avez, parce que tu parles quand même de 100 000 Français. J'en avais parlé donc avec Frédéric, avec Simplon, avec Meta. Ils m'ont accompagné 30 000 Français. Donc, moi, c'est ce que je fais aussi ici avec le podcast, en essayant de toucher un maximum de Français, de démocratiser. Je pense que c'est ce que vient de dire Macron, le président aussi, Emmanuel Macron, sur la France qui veut être leader sur l'intelligence artificielle et qui a énormément d'ambition suite au rapport qui est sorti là, par le comité interministériel. Et donc, c'est très important d'avoir une telle ambition. Et là-dessus, 100 000 Français, bravo. Et c'est ce dont on a besoin pour l'avenir. Quoi. Ouais.
Moi, je vais te dire, ça, c'est effectivement très ambitieux. Notre ambition, elle va même un cran plus loin. C'est des centaines d'organisations et d'entreprises qu'on veut toucher. D'accord. Parce qu'à la fin des fins, les individus, c'est très bien, mais c'est là où ils sont dans leur métier, dans les organisations et dans les entreprises. Et je voudrais qu'on arrive jusque-là, parce que si on prend les ambitions, par exemple, du gouvernement, si on regarde le plan 2025, dans le plan 2025, il y a écrit « accompagner », donc ça, c'est des enjeux du gouvernement, « accompagner 400 PME à l'adoption de l'intelligence artificielle générative », notamment avec les actions de la BPI et l'IA Booster. Ouais. Moi, je pense que des centaines de petites, de moyennes entreprises, parce que les grands groupes, ils y vont même très vite. Mais c'est ça l'enjeu, c'est que notre tissu économique dans toutes les régions de France puisse s'emparer de l'outil pour que ça lui apporte la valeur dont il a besoin.
Écoute, c'est super intéressant. On a besoin d'initiatives comme ça, et là, c'en est une très très belle. Henrik, j'aimerais te poser un petit peu une question aussi, enfin, sur ce qui vient de se passer là. Annonce très intéressante de Microsoft aussi, c'est le partenariat avec Mistral. Donc, belle opération aussi là sur laquelle vous êtes positionné.
Tu sais, si on regarde, on a toujours chez Microsoft fait deux choses et ça s'est accéléré ces dernières années. Ouais. La première chose, c'est de démocratiser l'accès au numérique pour les individus et pour les entreprises et de le faire de plus en plus, surtout avec l'arrivée de Satya Nadella, dans une démarche d'ouverture. Si on prend la plateforme cloud Azure de Microsoft, ouais. Le fait d'héberger OpenAI, c'est une chose, mais des modèles open source comme Llama 2 ou comme Mistral, eh bien, ça doit, et ça fait partie de ce que l'on veut faire. Et puis en même temps, accompagner comme on le fait depuis très longtemps des startups. Alors maintenant, je misera les startups, mais startups licorne, c'est pas nouveau pour Microsoft. Et juste pour la petite histoire, l'accompagnement de startups, l'idée même d'accompagner des startups, elle est née en France. Le programme historiquement d'accompagnement des startups, il y a quelques dizaines d'années, est né en France, qui est devenu après Bispark, etc. Et sur les sujets d'IA. Quand le plan d'Emmanuel Macron AI for Humanity a été lancé en 2018 et en même temps Station F arrivant en 2017, le premier programme d'accélération de start-up à l'IA, on l'a lancé à Station F, à l'AI Factory. Et dans les premiers batch de cette promotion, il y avait Hugging Face. Et oui. Je pense que ça parle aussi à tout le monde. Et Hugging Face, qui aujourd'hui est aussi un acteur incroyable et qui est sur et dont les modèles sont open source et sont aussi accessibles sur le cloud. Donc, c'est pas nouveau pour Microsoft que d'accompagner des leaders technologiques, d'accompagner l'innovation et d'essayer de le faire avec une certaine forme d'ouverture pour proposer le meilleur de l'IA. En l'occurrence sur nos technologies, sur le cloud Azure en tout cas, ouais. Sur le cloud.
Ouais, ouais, donc non, mais ça c'est super. Tu as raison sur ces initiatives, je les ai suivies de près parce que je suis mentor du programme Women in AI de Microsoft et j'adore ce programme d'ailleurs. Je passe le bonjour à Diana aussi qui travaille dessus et je suis le mentor de Chloé Garcia. Avec qui a travaillé aussi donc sur
le programme GenAI Accelerator.
D'accélérateur, exactement.
Et l'évolution de l'AI Factory à Station F, elle a pris deux directions, une sur l'environnement et une sur l'IA générative. Exactement.
Ouais. C'est super. Et donc, on fait un peu des startups à présenter, des startups à faire intervenir au meet-up et des très beaux projets IA. Donc, c'est cool. Ouais.
Je te fais un peu de teasing puisque tu me parles de Women in AI. Je t'invite et j'invite les auditeurs à guetter ce que l'on va faire dans le cadre d'Avulia sur les femmes et l'intelligence artificielle.
Ok, super important. On va guetter ça, on va suivre ça de très près.
On a déjà annoncé des choses avec Simplon.
C'est encore un sujet. Hein. Moi, on en parlait à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. C'était une bonne occasion, mais on peut se le dire tous les jours, il n'y a pas encore assez de femmes sur le sujet IA générative.
Ben, on a déjà plus qu'avancé sur le sujet avec, en l'occurrence, Simplon. On reviendra peut-être sur ce beau programme qu'on a lancé il y a 5 ans avec les écoles IA by Simplon, où on a créé avec Simplon un diplôme, développeur en intelligence artificielle, reconnu RNCP, l'équivalent d'un bac plus 3. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout le monde pensait data scientist, et on a créé développeur en intelligence artificielle. Et avec aujourd'hui presque 2000 jobs qui ont été créés, des personnes qui ont trouvé des vocations, avec plus de 30% de femmes et un taux de sortie positive à 98%. On lance là avec Simplon une initiative justement pour donner envie aux femmes de se lancer dans la formation et dans les métiers de l'IA. Et je trouve que le nom est juste. Il porte très bien son nom, Génial, Génial, voilà, vous avez compris le jeu de mots. Ça, c'est un système de bootcamp qu'on lance avec Simplon et on a d'autres opérations dans cette dimension-là parce que le numérique et en l'occurrence l'IA est une opportunité pour tout à chacun et avoir plus de femmes dans la tech et dans l'IA, c'est une opportunité, c'est gage de diversité pour justement l'usage et pour la création d'IA, c'est extrêmement important.
Super. Donc, cause très importante. En effet, on va suivre ça. Henrik, j'ai vu sur LinkedIn que tu avais un petit cheval de bataille ou une théorie, un petit peu, en tout cas, sur l'amplification des soft skills. Donc, tu disais que tu étais persuadé que l'IA allait encore amplifier notre ingéniosité.
Ouais.
Est-ce que tu peux développer un petit peu cet axe parce que je pense qu'en effet, c'est quelque chose de très intéressant.
Bah, c'est une conviction de Microsoft. Il y a 2018, quand on a commencé à vraiment mettre en avant l'IA, on le disait déjà, on est persuadé que l'intelligence artificielle va amplifier l'ingéniosité humaine. Et moi, je trouve que ça s'accélère et que c'est encore plus vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous ferez attention qu'on ne parle pas d'augmentation. Moi, je ne suis pas fan du tout de ce terme homme augmenté. Voilà. Et pourquoi amplifier l'ingéniosité humaine? Qu'est-ce qui fait de nous des hommes? Ce qui fait de nous des hommes, c'est justement notre ingéniosité, c'est notre créativité, c'est notre empathie, c'est notre vision stratégique, c'est aussi notre capacité à collaborer, à avoir une certaine forme de vision stratégique, de vision transversale. Et si aujourd'hui, dans toutes nos professions, on a effectivement un outil aussi puissant que l'intelligence artificielle générative, c'est extrêmement bien, mais ça va encore plus nous demander de travailler sur les... D'abord, ça n'enlève rien à notre expertise, au contraire, je suis intimement persuadé qu'il faut qu'on garde notre expertise et que ça va être encore plus critique pour être capable de challenger les potentielles hallucinations et autres. Par contre, c'est bien parce qu'on va se faire dégrossir le travail, ou alors on va avoir un petit coach hein, pour aiguiser sa créativité. Donc notre esprit critique, notre expertise et notre esprit critique seront toujours nécessaires plus que jamais, mais c'est surtout si demain, prenons n'importe quelle profession, que ce soit un médecin, que ce soit un enseignant, le fameux radiologue qui va se faire piquer son job, ou moi je ne suis pas persuadé, mais eh bien l'IA générative va l'aider, mais derrière, si ça lui permet de gagner du temps, et c'est pour faire quoi ? C'est pour passer certainement plus de temps avec son patient, pour pouvoir avoir plus de transversalité dans nos échanges, pouvoir encore plus aiguiser notre créativité et donc notre ingéniosité. Moi, je pense que dans l'évolution des métiers, il y avait une étude qui a été sortie, j'aimerais bien voir, c'est une étude de McKinsey qui était sortie en 2019, qui disait que avec l'arrivée de l'IA et de l'automatisation, à plus de 60%, les skills qui seraient attendus, c'est des skills tech, et à 26%, c'était les soft skills qui allaient augmenter. Moi, je pense que ça va encore plus être exacerbé. C'est-à-dire que oui, on va devoir tous monter en compétences, si ce n'est pas déjà le cas, sur les technologies, parce que ça va rentrer dans notre vie de tous les jours et il faut apprendre à les utiliser, à bien les utiliser et à bien être conscient des limites aussi de ces technologies. Mais derrière, dans nos métiers, je suis intimement persuadé que les compétences transversales, donc les soft skills, vont devenir encore plus critiques pour la résolution de problèmes. Voilà. Donc, je pense que c'est si on le prend dans le bon sens, c'est une opportunité pour être encore plus humain.
Oui. Oui, tout à fait. Ça, c'est ça. Donc t'es très optimiste donc par rapport à ça. Tu penses que l'impact sur le travail, donc c'est aussi plus de confort, plus de satisfaction dans le travail.
Bah, je suis optimiste. Après, moi, j'ai un biais, pas parce que je travaille chez Microsoft, et parce que moi, j'ai tendance à voir. Voilà, c'est dans ma manière d'être, le verre d'eau à moitié plein plutôt que le verre d'eau à moitié vide. Je suis pas non plus inconscient, je vois bien les potentiels problématiques autour de l'IA responsable, et on y travaille beaucoup, les potentiels problématiques aussi managériaux de recrutement, et la manière dont on recrute aujourd'hui, ou la manière dont on forme, et la manière dont on pourrait se dire en fait j'ai un super outil, est-ce que je prends ou pas une personne en plus, ou un alternant, ou un stagiaire plutôt qu'une IA générative. Je pense que ça transforme clairement nos organisations, les compétences qu'on attend des jobs et le type de job. Mais je suis intimement persuadé que ça doit nous tirer vers le haut dans le bon sens, et que c'est une véritable opportunité de justement transformer les emplois. Et si on gagne en productivité, par exemple, ou si on gagne en en pénibilité, parce qu'on a quand même tous aussi des tâches, même si on est devant un écran, on dit c'est pas très pénible. Si, ça peut être très pénible de faire de la paperasse, par exemple. Alors, c'est pas la même pénibilité qu'un travail physique, hein, on l'entend, hein. Mais, si c'est pour gagner du temps, gagner en confort, je pense que ce temps et ce confort, on peut le réinvestir dans des choses qui relèvent de nos compétences transversales pour être encore plus expert dans ces domaines.
Oui, tout à fait. J'ai vu une phrase assez intéressante récemment, en tout cas qui m'a interpellé. C'est d'un gourou du marketing qui fait ça depuis donc vraiment quelques années, quelqu'un qui s'appelle Seth Godin, un Américain.
Ah oui, oui, oui.
Peut-être que tu vois. Et
oui,
il disait l'IA, si vous ne l'utilisez pas, l'IA générative, si vous ne l'utilisez pas 30 minutes par jour, vous passez à côté. Et en fait, ça m'a pas mal fait réfléchir parce que je trouve ça très vrai. Et par contre, je pense qu'il faut un moment pour adopter l'IA comme ça, pour la faire rentrer dans ses usages. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Henrik?
Ben oui, je pense que le numérique, d'une manière générale, et encore plus l'IA, arrive dans nos vies de tous les jours, arrive dans nos emplois. On doit certes être accompagné dans nos organisations, mais on doit aussi prendre le sujet à bras le corps, s'intéresser au sujet. Et en plus, ce qui est bien, c'est que on n'est pas en train de dire tout le monde va devoir coder. Là, utiliser et apprendre à prompter, ouais, et voir ce que le truc est capable de faire. Hein, est-ce que c'est capable de faire l'IA générative, le copilote ou le DALL-E pour générer. Ben, comprendre, apprendre et comprendre. Je pense que c'est obligatoire, j'aime pas être péremptoire quand je dis ça, mais c'est une opportunité qu'on laisse de côté et qui et que voilà.
Ouais, bien sûr. J'aime bien aussi, on disait, avec Google, le savoir était accessible en un clic. Avec ces outils, la IA générative, ChatGPT, Copilot, c'est la compétence, la compréhension, quoi, qui est accessible en un prompt, quoi. Enfin,
c'est vrai. Après, il y a attention à ça. Quand je dis attention, moi, je constate dans mes échanges qu'on a l'impression que les copilotes et les GPT, les personnes les conçoivent comme des experts parce qu'effectivement, ils ont été entraînés et qu'ils ont accès à énormément de données. Quand j'ai des échanges avec des... que ce soit des élèves de troisième ou des élèves d'études supérieures, je leur dis... Comprenez bien que le LLM, en fait, c'est comme un enfant de, je sais pas, disons 7 ans, qui a extrêmement bien appris à parler et à écrire. Certes, il l'a fait en apprenant tout Wikipédia, donc on a l'impression qu'il est expert. Mais en fait, il n'est pas expert de tous les domaines et son niveau d'expertise est limité à ce à quoi il a accès. Donc, c'est très intéressant pour accéder à un niveau d'information, on va dire... basique. Alors basique sur certains domaines dont on n'est pas expert, ça suffit largement pour apprendre un nouveau sujet. Par contre, quand on est en train de travailler son expertise ou quand on est expert, faut pas laisser dormante sa propre expertise parce qu'effectivement on n'est pas à l'abri des hallucinations, etc. Moi, l'exemple que j'avais montré, c'est assez rigolo, c'est pour ça que j'en parle. J'avais montré, à l'époque, c'était sur GPT 3.5, mais à des stagiaires de troisième. J'avais posé la question à GPT. J'avais dit, peux-tu me donner l'origine du cheval vert d'Henri IV?
Ouais.
Et on avait on avait tout l'historique du cheval vert d'Henri IV avec le siège de Paris en 1650, les plumes vertes sur le chapeau, etc. Donc ça fait rigoler parce que on sait très bien que le cheval vert d'Henri IV n'a pas existé, hein, tout le monde sait qu'il était blanc, n'est-ce pas?
Exact. Tu me mettais un petit doute là. Je suis à la ramasse ou quoi là?
Mais cet exemple, il est assez intéressant pour se dire voilà, ça n'enlève en rien. Enfin, au contraire, ça nous demande un esprit critique de regarder un petit peu les sources, etc. etc.
Donc, ouais, tout à fait.
Je pense que
c'est. Très bon point. Esprit critique, connaître l'IA, l'utiliser, faire preuve d'esprit critique, évidemment. Et encore une fois, tu disais soft skills et tout ça.
Ouais. Ouais.
Super. Henrik, j'ai une question. Je t'ai déjà vu parler de ce sujet, j'ai trouvé ça passionnant. C'est un sujet très important qui va se poser de plus en plus dans les années qui viennent avec l'impact de l'IA. C'est la question de la propriété intellectuelle. Et j'ai vu que toi, tu avais une théorie et que tu es arrivé, en tout cas aussi, à remonter un petit peu dans le temps à ce sujet-là.
Oh, j'ai pas une théorie, il y a un peu d'histoire. Je me suis un peu documenté et il y a un peu d'histoire. C'est intéressant de voir parce que en fait, c'est un débat qui est pas tranché, hein, et sur
Pas
lequel
du
on va
tout.
devoir avancer. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu d'historique, de se dire effectivement le droit d'auteur, ça a commencé à voir le jour dans les cours royales il y a 500 ans. C'est les monarques européens qui ont commencé à accorder des privilèges, des licences à leurs artistes préférés, et pas d'autres personnes que ces créateurs choisis étaient autorisés à publier des œuvres, etc. Et donc pendant un certain temps, ben, les éditeurs qui étaient nommés par le roi, c'était les seuls à pouvoir à s'offrir des presses à imprimer, etc. Et puis après, tout a changé au milieu du 15e, avec l'arrivée de Gutenberg et le côté imprimerie beaucoup plus abordable. Et là, on a commencé à avoir des pamphlets, des prospectus qui étaient anonymes, etc. Et une opinion publique sur le droit d'auteur royal qui a commencé à changer dans les années 1600, et notamment avec un poète anglais, John Milton, qui s'est prononcé en faveur de la liberté d'imprimer. Et donc, on a vu l'histoire de licence, etc. Et après, si on avance, bah, effectivement, il y a eu cette notion de réflexion, de loi anglaise appliquée aux colonies américaines aux États-Unis. Et après, on avait fait cette notion de droit d'auteur qui a été mis en œuvre avec cette notion d'utilisation, le concept d'utilisation équitable fin des années 70. C'est-à-dire que certaines entités pouvaient utiliser gratuitement des documents protégés par le droit d'auteur, et si c'était par exemple dans un but de copie pour l'éducation, pour l'information,
Un peu le fair use, quoi, en fait.
Et après, on a vu effectivement avec exactement ce côté fair use. Et puis après, on a vu avec l'arrivée des moteurs de recherche, etc., un certain nombre de problématiques, d'affaires qui sont arrivées et où on a vu arriver un nouveau concept, le côté transformative use. Grosso modo, si j'utilise de la propriété intellectuelle, mais que je la transforme suffisamment et que j'apporte de la valeur en l'ayant transformée, alors j'ai une certaine forme de droit. Et là où ben, on est en plein dans ce passage où ben, on va effectivement générer à partir de données de la propriété intellectuelle, et on a pas encore toutes les réglementations qui sont en place. On a pris les devants d'ailleurs côté Microsoft. Donc je rassure toutes les auditrices ou les auditeurs du podcast que si, donc vous regarderez, ça s'appelle les copyright commitment chez Microsoft. Si vous utilisez des outils comme Copilot ou Azure OpenAI et que vous n'avez pas désactiver les filtres qui sont par défaut, etc., et que vous n'avez pas pris des documents avec de la propriété intellectuelle pour en générer un autre, donc vous avez un usage, on va dire, normal, tout ce que vous pourrez générer, si jamais quelqu'un vous attaquait sur ce sujet-là, on le prendrait à notre charge. Microsoft s'engage à le prendre à notre charge parce qu'on est suffisamment confiant sur la manière dont on a paramétré les choses et les algorithmes, etc. Donc, vous êtes propriétaire de votre propriété intellectuelle générée, votre image pour votre campagne ou autre, si tant est que vous avez bien respecté un certain nombre de choses.
Écoute, ça c'est hyper important. Je pense qu'il y en a, il y en a beaucoup qui sont rassurés. Et par rapport à ça, aujourd'hui, donc il y a aussi une norme là en fait. Donc c'est, ah, c'est le C2PA là, c'est C2PA, donc la coalition pour la provenance des contenus et l'authenticité. Donc je crois que ça c'est très intéressant. Il y a Microsoft, OpenAI, Meta, Google, Adobe, BBC, Sony. Moi j'ai un copain qui a travaillé, qui est chercheur, qui a fait de la recherche dessus avec Digimarc. On parle donc d'un marquage en fait par les plateformes des images en fait et des contenus générés.
C'est exactement ça. Alors pour expliquer, c'était un projet à la fois de recherche côté Microsoft qui s'appelait Project Origins et puis des actions qu'avait aussi la BBC et aussi Adobe qui travaillait là-dessus et qui tout ça s'est mis ensemble pour se dire il faut qu'on crée une norme un peu de, je sais pas si les on va dire de filigrane, on dit de watermarking, un peu de marquage des contenus générés, donc les contenus vidéo, les contenus images, ça peut être aussi des contenus sonores ou ça peut être des documents. Malheureusement, on n'a pas encore la technologie pour le texte, mais des documents, on va dire, voilà. Et être capable de marquer ces documents, donc d'élaborer une norme pour les marquer et de savoir s'ils n'ont pas été transformés au cours de leur vie. Et cette norme portée par cette coalition, bah maintenant il y a quasiment tous les acteurs de la tech. Il y a plein d'autres acteurs qui créent du contenu. En France, par exemple, on a Publicis qui a rejoint, mais on a d'autres acteurs qui sont aussi en train de rejoindre. Donc, c'est une coalition et qui a vraiment vocation à faire en sorte que cette norme soit adoptée et qu'on puisse, en tant que créateur de contenu, d'images, etc., l'utiliser et qu'il y a peut-être un petit i d'information quand on va recevoir le contenu, on pourra regarder s'il a été transformé ou pas, ou si ça y est, et si ça y est pas, c'est que bah, ça, potentiellement ça a pu être généré par une IA générative ou alors si ça a été généré par une image générative, en tout cas on a l'origine et après je sais pas, c'est une boîte de prod qui l'a généré, etc. Mais au moins on a la traçabilité de tout ça. Alors ça suffira pas forcément parce que il faut rajouter d'autres technologies pour éviter un certain nombre de choses, mais c'est une très belle avancée dans ce domaine-là. Que de voir une norme et deux une coalition d'acteurs, et j'espère que on aura même des outils, pourquoi pas, de détection au niveau du grand public, de pouvoir se dire voilà, on a reçu une image, on a reçu un document, on peut dire c'est un fake ou c'est pas un fake, ce qui existe déjà sur les informations un petit peu. Je sais pas si vous utilisez, il y a une fonctionnalité qui est intéressante, c'est NewsGuard qui est pas mal, et au passage si vous utilisez dans Edge ou dans Chrome le petit plugin, vous pouvez voir quand vous, au moment où vous avez dans votre moteur de recherche une suggestion de d'information, vous voyez si elle est à 100% fiable ou pas avec la petite information NewsGuard. Là j'espère qu'on aura la même chose sur les contenus images, vidéos, etc. très très prochainement grâce à cette initiative.
Écoute, on va en avoir grandement besoin vu la quantité de contenu généré, les enjeux des élections dans le monde entier, hein, aux États-Unis, mais pas que, sur 2024. Et après, je pense que ça va dans le sens de l'AI Act aussi, hein, donc des bonnes initiatives. Henrik, j'aimerais te... Pour toi, donc, l'IA générative, c'est aussi synonyme de possibilités, de grandes découvertes dans les années qui viennent ?
Je pense que la chose qu'on n'a pas encore vue complètement atterrir dans l'entièreté de ces possibilités, c'est le côté multimodal. Quand je dis multimodal, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais ces fameux modèles fondations qui ont donné lieu, donc les transformers modèles, mais ces modèles fondations qui ont donné lieu à ces modèles de langage, hein, ces grands modèles de langage, ces fameux LLM, En fait, ils ont été entraînés avec des données de plein de choses. C'est-à-dire, autant, par exemple, pour reprendre notre histoire, et ça bouclera la boucle avec notre début de la conversation, autant en 2016, 2017, la manière dont on fonctionnait, c'est qu'on entraînait un modèle avec des données pour d'images, et on avait un modèle qui reconnaissait des choses dans les images. Ensuite, un modèle de compréhension du langage avec des données liées au langage, etc. Là, on a pris plein de données de formats différents, de modèles différents. On a fait un énorme modèle et c'est capable de jouer avec des images, du texte, de la voix, etc. etc. Et donc, de générer un peu tout ça. Et on peut après les hyper spécialiser. Moi, je pense qu'on va voir arriver des choses de plus en plus multimodales qui vont mélanger du texte, de la voix, de la vidéo, du son. Je pense qu'on n'a pas encore tous les scénarios d'IA générative qui sont atterris. Et après, ce qu'on va aussi voir très certainement arriver, c'est des plus petits modèles. Si vous suivez les annonces, notamment par exemple côté Microsoft, ce qu'on appelle les SLM, les Small Language Model. Autant GPT 3.5, je crois que c'est public, c'était 175 milliards de paramètres. Autant GPT-4, je crois que ça n'a pas été publié, mais on parle de plusieurs centaines de milliards de paramètres. On peut imaginer que c'est plusieurs centaines du type 700, 800, 900 milliards, puisque des modèles à peu près similaires comme chez Microsoft, comme Turing NLG, c'était 500 et quelques milliards. Donc voilà. Et là, on est en train de voir des modèles arriver. C'est des projets comme Orca 2, comme Phi 2 chez Microsoft, qui sont des modèles d'ailleurs mis en open source, qui font 1 milliard de paramètres. Il y en a aussi chez Mistral. Ouais. Et donc, c'est 1 milliard de paramètres. Donc, le modèle, il est plus petit. Alors, on se dit, OK, mais moi, ça ne me parle pas de ces paramètres. En fait, comme il est plus petit, il est un petit peu moins gourmand. Et comme il est un peu moins gourmand, il peut tourner en local. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir avoir ces modèles qui tournent en local sur son PC, peut-être demain, un jour, sur son téléphone, qui sait. Et donc, de pouvoir accéder à cette IA générative localement sans avoir besoin de passer par le cloud.
Yes, ok, merci beaucoup Aymeric. Donc, multimodalité et miniaturisation, spécialisation des modèles, des perspectives hyper intéressantes. La dernière question, Aymeric, est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander?
Waouh, moi, je ne vais pas être très, je vais pas être très original. Moi, j'ai été bercé par Star Wars, donc voilà. Maintenant, peut-être un domaine de science-fiction qui est un peu moins connu et qui a fait un bide au cinéma. Je crois que c'est le plus gros four cinématographique de l'histoire du cinéma, je pense. Et moi, j'ai eu la chance de découvrir ces livres quand j'étais assez jeune, quand j'avais 9-10 ans. L'auteur s'appelle Edgar Rice Burroughs, c'est lui qui a inventé Tarzan. C'est lui qui a inventé aussi une série qui s'appelle Pellucidar, ça se passe sous terre, mais c'est lui qui a inventé John Carter. Alors, ça n'a rien à voir avec l'IA, etc. C'est l'histoire d'un humain qui se retrouve sur Mars. Le film est un... Voilà, un four.
Un nanar.
Ouais, mais non, mais je crois, si vous regardez sur Internet, je crois que c'est le plus gros bide d'un point de vue business. Moi, j'ai bien aimé les livres. Voilà, moi, j'ai bien aimé les livres. Donc, si vous ne connaissez pas John Carter, je vous invite à voilà.
Eh ben, très bon conseil. Merci beaucoup, Aymeric. Super initiative, en tout cas, à vous, Lia, là-dessus. On va suivre de très près ce que vous allez nous présenter, ce que vous allez dérouler, ce plan de formation très ambitieux. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer au podcast. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Aymeric, et je te dis à très bientôt.
Ben, merci beaucoup, Nicolas. Et puis, à très bientôt, oui, à tout le monde.
Salut, merci. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoir IA jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn. Ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoir IA. À bientôt.